La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et vous êtes au bon endroit pour découvrir des entreprises qui vont bien en ce moment. Mais aussi des femmes, des hommes qui se lancent et qui préparent déjà l'avenir. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag et bonjour à tous. C'est un secteur qui se porte bien, l'habillement pour enfants. Bah oui, nos bambins ont grandi pendant le confinement et on s'est rué dans les magasins. La rentrée aussi est passée par là. Notre grand témoin aujourd'hui, l'une des marques les plus iconiques du secteur, Petit Bateau. Guillaume Darousset, le PDG de Petit Bateau, est à bord de la France Bouge jusqu'à 14h.
À la une, en effet, Emmanuel, le marché des produits de puériculture qui cartonne. Exemple, avec une poussette française au design unique, Baby Zen, fabricant de la poussette Yo-Yo. Son PDG est dans notre studio et il nous dira tout dans quelques instants.
Ça fait partie des tout premiers jeux que l'on a enfant. Sophie la girafe, oui, bah oui, vous connaissez tous, fabriquée en France depuis quasiment 60 ans. Et vous allez tout découvrir sur elle dans la saga du jour. Rendez-vous aux alentours de 13h30.
Bien sûr, les trophées Europe 1. Chaque jour, un entrepreneur vient nous présenter son projet. Aujourd'hui, nous avons retenu Crème avec un K. C'est de la cosmétique fraîche. Sa fondatrice saura-t-elle nous convaincre? Réponse à 13h45.
Et en fin d'émission, demain au travail, on passera un coup de fil chez Nexity. On se bouge pour engager là-bas des collaborateurs autour d'une action en faveur de l'égalité des chances.
Allez, bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, chaque jour, on met à la une des entreprises, des initiatives, des associations qui fonctionnent. Et aujourd'hui, donc, gros plan sur le marché des produits pour bébés, plus généralement pour enfants. Et on va voir peut-être même pour adultes.
Et donc avec vous, Guillaume Darousset, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG de Petit Bateau. On connaît tous cette marque. Hein. Une marque française fondée en 1893. Elle appartient au groupe Yves Rocher depuis 1988. Petit Bateau, ce sont près de 400 boutiques au total. Guillaume Darousset, malgré la crise sanitaire que nous traversons tous en ce moment, on nous murmure que ça va plutôt bien chez Petit Bateau.
En tout cas, je suis optimiste. Ça a été très dur, la crise, on l'a traversée un peu comme tout le monde.
Elle est encore là. Hein.
On a beaucoup de magasins, donc forcément, on est toujours affecté par un trafic en baisse. Maintenant, on se bat, on a l'Internet qui bouscule un peu les habitudes quotidiennes. La croissance est là sur l'Internet. Elle compense en grande partie ce que nous perdons sur les magasins. Et on est confiant, il va y avoir un petit baby-boom.
L'optimisme, c'est ce qu'on retient.
Exactement.
Il va y avoir un petit baby-boom, mais est-ce que déjà avant le baby-boom, il y a eu à la sortie du confinement le fait que les bambins avaient grandi pendant ce confinement. On a vu, notamment du côté des magasins de chaussures pour enfants, un véritable boom après le confinement. Ça s'est vérifié dans des magasins comme vous, chez Petit Bateau?
Alors, je ne dirais pas que c'était une ruée, parce que j'ai entendu le mot ruée. Il y a pas mal de gens qui sont sortis du confinement et qui sont arrivés chez nous. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a vendu énormément sur Internet pendant cette période de confinement. Donc effectivement, un petit boom après Covid, après le déconfinement. Et puis depuis, on souffre un peu d'un trafic compliqué.
Alors, on le sait, un Petit Bateau, ce sont des produits de confort. Hein. Ce sont des pyjamas, des bodys, des sous-vêtements, des chaussettes, des pardessus. On est à la recherche du confort en ce moment, ou plus que d'habitude?
Oui.
C'est-à-dire?
Clairement, on voit, alors les produits, vous l'avez dit, les produits Petit Bateau, c'est des produits durables, mais c'est surtout des produits très confortables aussi. Et on a vu pendant cette période de confinement les gens qui souhaitaient des choses douces, des choses confortables, parce qu'elles restaient chez eux. Mmh. Et à la sortie du confinement, c'est pareil.
C'est-à-dire, c'est pareil. Les demandes sont
les mêmes. C'est-à-dire que c'est plutôt des choses à nouveau très douces parce que les gens sont encore à la maison en télétravail.
En ce moment, il pleut sur une bonne partie de la France. On a entendu tout à l'heure la météo avec Anissa Dadi nous disant que ça ne va peut-être pas être exceptionnel encore dans les jours à venir. C'est la meilleure nouvelle pour vous?
Ouais.
Parce qu'on va aller acheter enfin les manteaux. Ouais. Vous êtes des marques très sensibles à la météo.
C'est effectivement depuis 3-4 jours une bonne semaine. Parce que les enfants, il faut les habiller quand il fait froid. C'est des grosses pièces. Et forcément, ils viennent renouveler chez Petit Bateau, qui est une des marques leaders du marché.
Donc, il faut fabriquer. Vos usines sont à Troyes.
Oui.
Comment tournent-elles en ce moment? Déjà, pendant la période du confinement, elles ont réussi à tourner normalement. Et là, ça se passe comment en ce moment?
Alors, pendant le confinement, on a eu des salariés exceptionnels qui ont continué à travailler sur la base du volontariat pour acheminer, finalement, préparer et acheminer les colis Internet. Et puis après, bah, à la réouverture, bah, ils travaillent comme normalement. Donc, c'est-à-dire que tous nos ateliers sont à 100% occupés et on continue à travailler pour les collections qui arrivent dans les semaines et les mois qui arrivent.
Vous disiez plusieurs fois depuis le début de cette émission que le digital est venu compenser les magasins physiques, comme on dit dans votre jargon. Ça se vérifie encore aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont pris l'habitude d'acheter sur le net pendant le confinement continuent d'avoir cette habitude ?
Alors oui, en fait, on a garder nos clients qui sont venus sur le net et on en a récupéré des nouveaux pour plusieurs raisons. On a été ouvert pendant le confinement, c'est-à-dire qu'on continuait à distribuer les produits à la maison alors que beaucoup de plateformes logistiques n'ont pas ouvert. Hein. Donc nos salariés ont fait un boulot extraordinaire. Deux, on a beaucoup donné de produits et donc on a gagné en...
C'est-à-dire vous aviez beaucoup de stocks ?
Non. Des produits, j'allais dire, des années 3 à 5 ans, pour habiller les gens pendant qu'ils ne pouvaient pas aller faire des courses. Mmh. Donc, on a donné ça. On a fabriqué des masques, comme vous l'avez vu. Et puis, on a essayé d'occuper les enfants beaucoup dans cette période en aidant les parents, parce que ce n'était pas facile de télétravailler. Et donc, on a eu une espèce de marketing positif pendant toute cette période de Covid, qui nous a permis de recruter énormément de nouveaux clients.
Elisabeth le disait tout à l'heure, 400 magasins au global pour Petit Bateau. Est-ce que cette crise, ça vous fait dire qu'il ne faut pas autant de magasins ou pas autant que ce que vous auriez imaginé pour vous développer parce que, grâce au numérique, vous avez le meilleur magasin au monde ?
Alors, je suis un adepte de l'omnicanal, comme on dit depuis des années quand j'étais chez Darty avant. L'idée, c'est qu'on a besoin de magasins. Ce sont des vitrines. On en a peut-être un peu beaucoup en Europe. On n'en a peut-être pas assez encore en Asie. On est très présent au Japon, on est présent en Chine, mais on n'est pas présent sur tous les pays d'Asie. Donc, ça va être un juste milieu à trouver. En tout cas, ce qui est sûr, dans ma stratégie, l'Internet va accélérer et très fortement.
Mais là, vous parlez de l'international au niveau de la France. Vos boutiques, il suffit d'aller dans n'importe quelle ville. On aperçoit une boutique Petit Bateau dans n'importe quel coin de rue. Avec cette croissance au niveau du digital, est-ce que là aussi, vous pensez peut-être remodifier les plans ?
Alors, on va les modifier, mais plutôt à la marge. À nouveau, on va vraiment utiliser les boutiques comme un vecteur de communication et Internet aussi comme un vecteur de communication et de vente. Et l'un et l'autre vont travailler ensemble avec des nouveaux services. Aujourd'hui, vous pouvez appeler de chez vous un magasin, faire une visite virtuelle du magasin avec un vendeur et acheter ce que vous voulez, on vient le livrer chez vous.
Comment ça, le vendeur, il filme le magasin ?
Exactement.
En FaceTime.
Une espèce de FaceTime, une visioconférence. Vous pouvez, dans toute l'Europe aujourd'hui, le faire. Vous êtes en maternité, vous avez oublié d'acheter quelques bodys. Vous pouvez appeler, on vous présente toute la sélection des bodys du magasin et on vient vous les livrer.
Mais là, ça change quand même énormément le besoin de magasin, parce que vous avez besoin d'en avoir un seul dans une grande ville. Vous en auriez 4 ou 5 d'habitude pour faire ça.
Alors, heureusement, on a 180 magasins. Ces 180 magasins fonctionnent relativement bien.
Bon, en tout cas, vous allez continuer à nous faire visiter vos magasins. Guillaume Darroussé, vous êtes le PDG de Petit Bateau. Vous restez avec nous.
Europe 1. Et il est 13h18 sur Europe 1.
À suivre après les vêtements chez l'enfant. La poussette, bien sûr. Et là aussi, en France, ça marche très bien.
Oui, avec une poussette qui cartonne. Ça s'appelle la poussette Yo-Yo. Elle a été imaginée par Baby Zen. Son fondateur est avec nous dans un instant.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et aujourd'hui, dans La France bouge, on parle de l'univers de nos enfants qui, malgré la crise, marche quand même plutôt bien. C'est ce qu'on entend depuis le début de cette émission avec notre grand témoin du jour, Guillaume Darroussé, qui est à la tête de Petit Bateau.
Et avec vous aussi, Julien Chauderge, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG et le cofondateur de Baby Zen. Votre produit phare, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de vous inviter à La France bouge, c'est la poussette. Elle s'appelle Yo-Yo. Elle est simple, hein, le design est très simple, une distribution complètement maîtrisée. Votre entreprise est née à Aix-en-Provence il y a déjà 11 ans, aujourd'hui 70 employés. Et on va revenir un petit peu sur la façon dont ça a commencé. Je crois qu'on est en 2003-2004 et à l'époque, vous êtes dans l'automobile, hein, je crois notamment chez Fiat et chez Alfa Romeo, et vous êtes sur le point de devenir papa.
Absolument. Donc à l'époque, je ne trouve pas simplement pas de poussette à... qui peut correspondre à mes besoins. J'habite Paris. Bon, voilà, donc j'avais la chance d'avoir un père qui est designer de produits pour enfants.
C'est l'inventeur du baby cook, on peut le dire. Hein, que là aussi, les parents, on futurs parents, connaissent bien.
C'est pour voilà, les donc bon, c'est vrai que assez rapidement, on s'est dit, bah, pourquoi on ne lancerait pas essayer de lancer une poussette. Donc, on a commencé à réfléchir à ça, à déposer le nom, notamment à l'époque Baby Zen. Et puis voilà, et puis faire une poussette aujourd'hui pour les parents.
C'est surtout parents zen en fait, c'est pour les parents.
C'est plutôt pour les parents zen, exactement.
Alors, bébé, ça n'a pas été si simple hein, parce que cette poussette, elle est véritablement révolutionnaire, elle est brevetée. Oui. Le premier modèle en 2008-2009 est un peu moyen maintenant, oui. On peut le dire. Il faut attendre 2012 pour que vraiment vous arriviez à avoir quelque chose qui se replie et surtout ce qui a été votre grosse innovation, une poussette qui passe partout dans les couloirs de train et ceux qui ont la chance de voyager régulièrement, la seule qui pouvait aussi rentrer à l'époque dans les casiers à bagages. C'est ça véritablement l'innovation dans les avions.
Dans les avions. Oui, c'est vraiment ça l'innovation. C'est vrai que la première poussette était une poussette qui était un petit peu entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire un produit assez gros, assez lourd comme il existe, comme on a connu pendant des années. Et puis la deuxième poussette, la Yo-Yo, avec laquelle aujourd'hui on a beaucoup de succès, est un produit vraiment qui est extrêmement compact, extrêmement facile, qu'on a voulu aussi vraiment faire le plus facile possible au quotidien pour les jeunes parents. Et donc évidemment qui va vous faciliter beaucoup la vie dans tout un tas de situations, mais dans les grandes villes, en déplacement, et évidemment jusqu'au déplacement dans les avions, mais aussi dans un TGV, pour prendre le métro, pour prendre un taxi, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ça qui fait vraiment notre différence, d'avoir probablement un produit qui correspond le mieux, ou en tout cas le mieux possible, à la vie des jeunes parents.
Donc on l'a compris, c'est une poussette dédiée vraiment aux parents qui vivent dans les grandes villes, qui se déplacent. Ça n'a pas été évident au début hein, d'être suivi dans cette aventure, dans cette innovation. On vous regardait un peu bizarrement du côté des industriels.
Non, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Ils nous ont plutôt regardé bizarrement, ça c'est sûr.
C'est bon signe quand on regarde bizarrement, quand on a un projet comme ça.
Pour moi c'est très bon signe, oui. Ça m'inspire beaucoup dans beaucoup d'autres modèles d'ailleurs. Donc c'est souvent bon signe puisque ça vous permet déjà de gagner un peu de temps. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire tranquillement votre marque sans qu'on vous emmène trop, on vous embête trop. Bon voilà, et après on a suivi tout simplement ce qui nous paraissait pour nous être notre conviction et on était absolument convaincus que les jeunes parents se retrouveraient dans nos produits. Aujourd'hui, de toute façon, c'est pas que les grandes villes. En fait, c'est c'est plus les citadins évidemment, mais une petite ville de 50 000 habitants.
Ce qui est malgré tout très impressionnant dans votre démarche, parce que c'est très très rare pour des entreprises françaises, surtout quand elles se créent. Tout de suite, vous vous êtes dit, si on reste en France, on est perdu, on n'y arrivera pas. Et je crois que vous avez ouvert quasiment aussi vite dans les plus grands magasins américains, à Hong Kong ou autres, parce que vous avez cherché à être mondial et à toucher ce public d'ultra-urbain quand même, ce qui a été la réussite à la base de l'entreprise, au-delà de l'idée.
Oui, ça, c'est vraiment été quelque chose qu'on a voulu faire dès le début. Et donc, on a procédé par ville, non pas du tout par pays. Donc, on voulait être présent à Paris, on voulait être présent à Hong Kong, on voulait être présent à Londres, etc. Donc, c'est vrai qu'on s'est vraiment focalisé sur les villes et sur les grandes villes, en se disant que si les parents des grandes villes acceptaient notre produit et le plébiscitaient, ça nous aiderait bien évidemment à convaincre les autres. Ensuite, sont arrivés le bouche-à-oreille en général, mais les réseaux sociaux ont évidemment beaucoup aidé. On parle d'Instagram aujourd'hui, parce que je crois que c'est les 10 ans d'Instagram aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses aussi qui nous ont beaucoup aidé à faire comprendre le produit et à montrer ça.
Puis vous avez une chance folle parce que des stars américaines, Kim Kardashian, je crois, pour ne pas la citer, a utilisé votre poussette.
Et là,
c'est ça qui a fait que c'est devenu une poussette star ?
Aux États-Unis, ça a beaucoup aidé. Pas simplement. Je pense qu'en France, c'est plutôt Gad Elmaleh, notamment, qui a été le premier vu avec la Yo-Yo.
Donc,
à chaque pays, on va dire que des personnes... Voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup les influenceurs. C'est également les gens connus, en général. Mais indépendamment de ça, je pense que quand on est parent, qu'on soit connu ou pas, on est avant tout parent. Et donc, on a besoin de quelque chose de pratique qui correspond. Voilà.
Aujourd'hui, vous êtes un peu victime de votre succès. C'est la poussette la plus volée, notamment en Île-de-France. C'est la poussette la plus copiée, je crois, à travers la planète. Et pourtant, elle coûte très cher. Un peu plus de 600 euros en moyenne, et encore quand on ne prend pas tout l'attirail pour l'avoir complète.
Oui, alors une yo-yo, ça démarre à 400 euros, mais c'est vrai que si vous la prenez depuis la naissance, ça va être à peu près un peu moins de 600 euros si vous la prenez depuis la naissance, donc complète. Donc oui, c'est sûr que la rançon du succès, malheureusement, ça va être d'avoir un produit qui est souvent volé, donc il faut absolument...
Il faudrait inventer un dispositif, un anti-vol spécial yo-yo. Hein.
Beaucoup de parents le font, après...
Ça.
Non, ben nous, pas spécialement, parce qu'en fait...
Alors, Marc, c'est mieux, comme ça, on peut aller en racheter une.
Oui, non, ça, c'est sûr que ce n'est pas vraiment le but. Mais par contre, on demande aux parents souvent de la monter à l'étage, de la monter avec eux, de la garder. Le gros intérêt aussi qu'elle soit pliable, c'est que vous pouvez l'emmener chez vous et ne plus la laisser dans la cage d'escalier. Elle ne prend pas de place dans la cage d'escalier parce qu'elle n'y est pas. Et en plus, vous l'avez chez vous, donc elle est en sécurité.
Guillaume Darroussé, PDG de Petit Bateau, vous êtes notre grand témoin du jour. Vous, quand on va dans vos magasins, on voit jamais des poussettes ou des objets comme ça pour les enfants. Vous n'avez jamais pensé à vous diversifier ?
Écoutez, alors moi, ça fait 3 mois que je suis le président de Petit Bateau. C'est une idée qu'on a, mais dans les 2-3 ans qui viennent, de regarder jusqu'où on pourrait pousser le monde de l'enfance.
Alors jusqu'où ?
Dites-nous votre rêve.
Pardon ?
Dites-nous votre rêve.
Ah bon, on peut imaginer de la cosmétique. Hein. Je fais partie du groupe Rocher, donc ça a un intérêt.
Yves Rocher,
on peut imaginer des produits pour enfants, des produits pour bébés. On peut imaginer la Sophie la girafe ou des produits similaires.
Quand vous dites on peut imaginer, vous le dites, hein, vous venez de prendre la tête de la marque il y a de cela maintenant quelques mois. Vous êtes depuis très longtemps au sein du groupe Yves Rocher, donc on ne vous a pas nommé par hasard. Je pense que vous aviez dû présenter vos idées pour l'avenir. Parmi vos idées, il y a cela, élargir la gamme de produits de Petit Bateau.
Alors écoutez, là on est juste post-Covid, donc j'ai quand même essayé de bien diriger la société parce que c'est compliqué. Dans une deuxième phase, on va se développer énormément sur la seconde main, hein, qui est un des vrais sujets d'actualité, de responsabilisation. Et puis on va regarder sur des nouveaux streams de revenus, dont je l'ai expliqué, hein, la cosmétique qui a pour moi le plus grand sens
la cosmétique pour
au
enfants.
Sein du groupe.
Donc cosmétiques les produits pour bébés, de soins, enfants. Les produits de soins. On va continuer à en parler avec vous, Guillaume Darrousset, PDG de Petit Bateau. Vous restez avec nous jusqu'à 14h. Merci, Julien Chauder, Jean, PDG et cofondateur de Babyzen qui fabrique la poussette yo-yo.
Europe 1. Et vous êtes sur Europe 1, il est 13h28.
Ah, vous avez entendu?
Oui, je connais un peu trop ce bruit en ce moment,
je
peux vous dire.
C'est le bruit de Sophie. Sophie, elle existe depuis plus de 60 ans. Elle
est fabriquée en
France.
En régie, là.
Et elle fait appel aux 5 sens du bébé. Tout est fait à la main.
Bon, vous avez tous reconnu Sophie la girafe. C'est notre saga du jour dans La France bouge.
Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et avec notre grand témoin du jour, Guillaume Darrousset, qui est le patron de Petit Bateau. Aujourd'hui, on parle notamment de vos enfants, Elisabeth.
Et Guillaume Darrousset, on était en train d'en parler un peu avant de nous quitter tout à l'heure. Avec la crise, la seconde main a encore marqué des points. Vos vêtements, on le sait tous, hein, en préparant l'émission avec Emmanuel, on en parlait. Vos vêtements, ce sont aussi des vêtements que l'on se transmet, qu'on transmet à la nièce, à la petite cousine, aux voisins. Est-ce que vous avez un potentiel de marché de seconde main ?
Personnellement, je pense qu'il est énorme, ce potentiel, parce que nos produits, nos vêtements, on le dit en interne, ont 5 vies. Comme vous le disiez, ils se passent de frère en frère, cousin en cousin. Inconnu en inconnu aujourd'hui sur toutes les plateformes de revente. Et nous, on a lancé en 2017, on était les premiers à lancer une application de revente sur Internet de vêtements Petit Bateau. Et là, on va aller plus loin, on va aller jusqu'en magasin.
Elle existe encore, cette appli ?
Oui, elle existe.
On la trouve tout difficilement, en tout cas.
Tapez sur Google Petit Bateau Occasion, elle sortira. On va la revamper, on va la retravailler, parce que je pense qu'il y a un peu de travail dessus.
Quand vous dites que maintenant, ça va être en magasin de façon très concrète, on va revenir avec notre sac de vieux habits ou d'habits récents, mais que le petit ou la petite ne peut plus porter. Vous allez les reprendre et vous les revendrez au sein même des magasins ?
Alors, dans une phase 1 pilote, on ne va pas les revendre dans nos magasins. On va utiliser une tierce partie pour tester déjà la reprise et le process de reprise. Et puis, dans un temps 2, on va effectivement tout internaliser, à la fois en magasin et sur Internet.
Et tout cela va dans le sens de votre stratégie autour de l'environnement. Vous voulez accélérer là-dessus pour être une marque plus environnementale que ce que vous pouvez être aujourd'hui. Ça s'inscrit dans cette logique du côté de Petit Bateau ?
Oui, complètement. En fait, pour qu'une marque soit forte aujourd'hui et demain, il faut qu'elle ait un business model rentable. C'est notre cas, avec des produits différenciants qui sont durables, mais il faut aussi contribuer au bien commun. Et notre façon de contribuer au bien commun, c'est de faire des vêtements ou des produits durables, donc responsables.
Et des vêtements, de produits durables, donc responsables, ça peut aussi attirer la clientèle adulte. Et cette clientèle, elle est importante chez Petit Bateau, parce que vous habillez aussi pour environ, je crois que c'est 20% de votre offre, hein, l'offre pour adultes. Comment vous expliquez, ça marche très bien, comment vous expliquez le succès de l'offre Petit Bateau pour les adultes ?
Alors ça a démarré, je vais vous faire une petite anecdote, mais ça a démarré via Karl Lagerfeld, notamment, qui cherchait un t-shirt Petit Bateau pour un de ses défilés.
On est en 95-96.
Voilà. Hein, et c'est Claudia Schiffer qui le porte. Et là, nos t-shirts décollent parce qu'ils ont la bonne forme, parce qu'ils ont la bonne qualité. Et depuis, on continue dans cette veine avec la culotte, avec nos iconiques, nos pulls marins, ces t-shirts dont je parlais, et puis des vêtements jour pour femmes.
Vous continuez, mais est-ce que vous voulez accélérer là-dessus? Puisque c'est vrai qu'on a été étonné avec Elisabeth en préparant la tournée de se voir 20% de l'offre. C'est quand même énorme quand on est au final quand même, à ce point-là, une marque d'enfant, d'avoir toute cette offre pour les adultes.
Je pense que mon avenir, il est plutôt côté de l'enfant que de côté de l'adulte.
Ça veut dire que vous allez peut-être réduire?
Ça veut dire que je vais peut-être réduire, je vais surtout accélérer sur le bébé et l'enfant et retrouver une place de leadership en France, en Europe et dans le monde.
Vous avez l'impression que la marque s'est un petit peu endormie ces dernières années, c'est quand vous dites « je voudrais retrouver une marque ». Et c'est vrai que nous, quand on a réfléchi à ce marché, la marque qui nous est venue en tête, c'était vous, Petit Bateau, marque iconique, mais vous pensez que vous êtes un peu endormi sur vos lauriers et que vos concurrents, au Baby, au Kaidi, du Pareil au Même ou d'autres, vous ont un peu devancé?
Je pense qu'on manque un peu de modernité aujourd'hui, donc on est en train de retravailler notre plateforme de marque, notre raison d'être, autour d'une raison d'être de la connexion à la nature. C'est dans nos gènes, c'est dans les gènes du groupe, il faut qu'on accélère sur ce côté-là, effectivement.
Mmh. Guillaume Darousse, et si je vous dis Sophie, la girafe, ça vous évoque quoi?
ça m'évoque un peu mon enfance, ça évoque mes neveux, mes nièces, quand ils étaient tout petits. Voilà, c'est un super jouet.
Elle traîne toujours, elle traîne toujours quelque part, hein, Sophie, ouais. La girafe. Elle est présentée dans 85 pays au monde. Elle est pas loin des 60 millions de produits vendus depuis son existence.
Et c'est donc la saga du jour que nous raconte aujourd'hui Quentin Paillet.
Je vous emmène à Rumilly, en Haute-Savoie, petite ville de 15 000 habitants au pied des Alpes. Là-bas, il n'y a aucune personnalité, pas de chanteuse ou d'acteur célèbre. Personne sauf un animal exotique de la famille des Giraffidae que tout le monde connaît. Et elle s'appelle Sophie, c'est Sophie la girafe. Ce célèbre jouet pour enfants aura 60 ans l'an prochain et son nom n'est pas dû au hasard, comme l'explique Stéphanie Arnaud, directrice générale adjointe de Vully, l'entreprise qui la fabrique.
Sophie la girafe, elle est née un 25 mai 1961 et celle-ci s'appelle Sophie la girafe puisqu'elle est rentrée en production le jour de la Sainte Sophie, le 25 mai.
Presque sexagénaire donc, et pas une ride, les enfants l'adorent, à tel point qu'ils la promènent partout, et surtout ils la mangent. Ses pattes et son cou sont mâchouillés à longueur de journée, mais pas de panique. Sophie est fabriquée à partir de la sève de l'EVA, autrement dit en caoutchouc. Sophie la girafe a une cible, les enfants entre 0 et 18 mois, et ce, pour une raison bien particulière.
Elle a été conçue pour éveiller ses cinq sens. Donc d'une part, ces taches brunes sur un corps blanc permettent d'éveiller la vue du petit. Ensuite, vous connaissez son fameux pouet-pouet, le pouet-pouet de Sophie, qui va éveiller l'ouïe de bébé. Pour le toucher, son grand cou, ses grandes pattes et toutes les parties qui vont pouvoir être mordillées pour soulager bébé lors des poussées dentaires. Et puis l'odeur très particulière va stimuler l'odorat de bébé et qui va reconnaître Sophie la girafe parmi tous ces autres jouets.
L'entreprise ne communique pas sur ses chiffres de vente, mais une seule certitude, c'est une véritable réussite française et c'est aussi un succès planétaire. Depuis 1961, il se serait vendu plus de 60 millions de Sophie la girafe dans le monde entier. 50% du chiffre d'affaires est réalisé à l'international et les États-Unis sont le deuxième marché après la France.
En effet, il y a des personnalités dans le monde entier qui se font offrir Sophie la girafe, comme Cara Delevingne, Elton John, Uma Thurman, Kim Kardashian, Sandra Bullock aussi, qui ont Sophie. C'est vrai que c'est le produit des bébés stars.
Aujourd'hui, toute une gamme de produits a été déclinée autour de Sophie. Tapis d'éveil, bavoir, hochet, serviette de bain. Et pour vous donner une idée du phénomène, il se vend chaque année autant de Sophie qu'il y a de naissances en France.
Autant de Sophie qu'il y a de naissances en France. Guillaume Darousse, notre grand patron du jour, PDG de Petit Bateau. On l'a entendu là, avec la saga de Sophie la girafe racontée par Quentin Paillet. Sophie a traversé des époques. Petit Bateau aussi. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ces grands succès ?
Je pense que pour qu'une marque soit forte aujourd'hui, elle a vraiment besoin de deux critères. Son business model, un business model rentable qui se construit forcément sur des produits différenciants ou des services. C'est le cas de Petit Bateau avec son produit extrêmement durable qui se transmet comme un patrimoine finalement. Et puis deuxièmement, c'est de pouvoir redonner, de contribuer au bien commun. Ce qui n'était pas forcément le cas hier, on parlait beaucoup de profitabilité. Demain et aujourd'hui, on parle beaucoup de redonner, de contribuer au bien commun. Et c'est ce qu'on essaye de faire en connectant les gens à la nature. Et quand on aura connecté les gens à la nature, ils prendront soin de cette belle planète.
C'est vrai que vous êtes aussi dans une aventure familiale. Elisabeth le disait en début d'émission, vous appartenez au groupe Yves Rocher depuis 1988. Ça peut paraître totalement inédit d'être dans un tel groupe de cosmétiques. Comment la marque Petit Bateau entre chez Yves Rocher ?
Alors, c'est en 1988 que le groupe Rocher achète Petit Bateau. Et depuis, l'ensemble des dirigeants du groupe Rocher sont tombés amoureux de cette marque. Et donc, on trouve des
Mais il se raconte que c'était une revanche, que le papa Yves Rocher avait voulu l'acheter il y a de cela des années, qu'on lui avait dit non. Quand la marque est tombée en 1900, dans les années 80, Petit Bateau, il a dit bah, « je vais quand même la racheter ». Et donc, c'est une petite pépite au sein du groupe. Est-ce que c'est vrai ?
C'est une pépite au sein du groupe, ça c'est vrai. Je suis premier à dire que Petit Bateau est la pépite du groupe. Sur l'histoire, oui, c'est dit beaucoup de choses sur l'histoire en tout cas. Ce qui est important, c'est que c'est une marque patrimoniale, un peu comme Yves Rocher finalement.
Guillaume Darousse, PDG de Petit Bateau, vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1. Et il est 13h39 pour le moment sur
Allez,
Europe 1.
Direction les trophées Europe 1, un projet, un pitch, leur moment fort de la France bouge.
Bah oui, parce que c'est une des promesses hein, chaque jour de votre émission. Aujourd'hui, crème. Alors attention, c'est avec un K. C'est de la cosmétique fraîche. Vous vous dites, c'est quoi de la cosmétique fraîche ? Eh bien, on va tout savoir dans un instant.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on parle notamment aujourd'hui des enfants avec le PDG de Petit Bateau qui est notre invité jusqu'à 14h. Mais c'est parti pour ce temps fort de votre émission, les trophées Europe 1. Ils osent, ils se lancent, nous les avons choisis, on les écoute chaque jour. Pitché devant l'œil attentif et exigeant de notre patron du jour.
Et aujourd'hui, c'est votre tour. Juliette Laillé, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 27 ans et vous êtes la cofondatrice de Crème, Crème avec un K. Vous souhaitez proposer une nouvelle génération de cosmétiques. Vous appelez cela la cosmétique fraîche. Et en plus, vous avez osé vous lancer en ce moment. Vous avez démarré hier votre campagne Ulule. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous allez tout nous expliquer. C'est parti, vous avez une minute.
Alors avec Crème, on propose en effet de la cosmétique fraîche, bio et 100% française. Alors cosmétique fraîche, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, on l'ignore souvent, mais en France, il se passe quasiment 2 ans entre la fabrication d'une crème et son utilisation. C'est trop et ça pousse les marques à mettre beaucoup de conservateurs, souvent controversés. En plus de ça, après 2 ans, les ingrédients sont souvent moins efficaces. Nous, on a voulu répondre à ce problème avec Crème et imaginer des soins frais, sans conservateurs. Ça, on y arrive parce qu'on produit au juste besoin. Ça veut dire qu'au lieu de produire beaucoup d'un coup et de stocker, on produit moins, mais plus souvent. On y arrive à ça parce qu'on on produit en circuit court. Tous nos ingrédients viennent de France, on fabrique en France. Parce qu'à quoi bon faire des cosmétiques made in France si c'est pour y mettre de l'huile de coco ou de l'aloe vera ? En France, on a des plantes exceptionnellement efficaces, comme le chanvre, la spiruline, le thym, et c'est elles qu'on a choisies dans nos produits, qu'on allie à des probiotiques. Ça donne 3 produits qu'on a lancés hier, une crème, une huile et un nettoyant. Et on se lance en effet sur la plateforme Ulule pour nous trouver ces crèmes K-R-E-M-E.
Eh bien, bravo, bravo pour ce pitch.
Très clair, moi je sais, moi j'ai beaucoup, moi j'ai compris maintenant, on ne savait pas avant l'émission. On disait bah, de la
si
cosmétique
compris,
fraîche.
On a tous tout compris alors.
On a tout compris. Alors, vous savez, Juliette, chaque jour, le dossier de la personne qui vient pitcher est épluché et étudié par une experte. Notre experte, c'est Nathalie Carré, la CCI France. Elle accompagne les créateurs d'entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie. Je vous propose donc d'écouter ce qu'elle pense de Crème. On y va.
2 points positifs pour l'entreprise Crème. D'abord, tendance du sans conservateur et du bio. Les Français font attention à ce qu'ils mangent, mais ils font aussi attention à ce qu'ils se mettent sur leur peau. 37% des femmes achètent régulièrement des soins pour le visage bio. Deuxièmement, le Made in France, qui est réel, puisque les matières premières sont françaises et la fabrication des soins également. Et les Français sont sensibles à la consommation locale. 1 point amélioré toutefois, la différenciation. Il y a plusieurs marques déjà présentes sur la cosmétique fraîche. Certaines vont même jusqu'à la fabrication en temps réel en boutique et avec des prix qui correspondent à des marques connues de produits de soins. Quelles promesses donc différentes pouvez-vous faire ? Quels services pouvez-vous proposer au-delà du produit ? Pour prendre votre place sur ce marché de la cosmétique responsable qui est très concurrentiel, il est important d'être hyper clair sur ce que vous apportez à vos clients et vous devez vous assurer que ce soit différent de ce que les autres apportent.
Nathalie, donc les forces et les faiblesses de Nathalie Carré pour votre entreprise Crème. Juliette, comment vous vous différenciez ? Qu'est-ce que vous répondez à Nathalie ?
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de marques qui font de la cosmétique fraîche et surtout de la cosmétique fraîche sans conservateur. Nous, en fait, notre parti pris, c'est de dire que ça suffit de demander aux femmes de choisir entre le naturel et l'efficacité. Donc on s'est mis au plus haut des standards de la naturalité. On est 100% naturel, on est bio, on est vegan, on est 100% sur Yuka, mais on est efficace. On est efficace parce que dans tous nos soins, il y a des probiotiques. Et ça, on pense que c'est une offre de valeur qui va être de plus en plus différenciante.
En fait, il faudrait plus le dire et plus l'écrire.
Ouais.
Parce qu'Elisabeth a tout vérifié, attention, hein, sur votre site. Guillaume Darousset, patron de Petit Bateau, on le disait, hein, vous appartenez au groupe Yves Rocher. Vous avez vous-même travaillé pour le groupe Yves Rocher juste avant de prendre la direction de Petit Bateau. Vous en pensez quoi, du coup, avec votre œil de spécialiste, là ?
Écoutez, je vais dire que ça va, ça répond aux attentes des consommateurs, c'est évident, du Made in France et du frais sans conservateur. C'est d'ailleurs ce que fait plus ou moins la marque Yves Rocher en produisant soi-même, hein, puisque nous maîtrisons tout l'outil de production chez Yves Rocher qui nous permet d'aller plus vite jusqu'au marché. Donc je trouve très intéressant ce produit, très dans l'air du temps. Maintenant, il y a du monde. Il y a du monde et le message, il faut le clarifier probablement un petit peu.
Alors moi, j'ai une question et j'assume que ma question soit potentiellement totalement idiote. Vu que c'est frais, combien de temps je peux garder mon produit chez moi? Parce que par définition, comme vous le dites très bien, il n'a pas tout ce qui lui permet de durer dans
il
le temps.
Il n'y a pas de conservateur.
Donc en combien de temps je dois l'utiliser?
Nous,
vous pouvez me dire hein, si elle est idiote ma question.
Non, hein. Elle n'est pas du tout idiote. C'est d'ailleurs une question qu'on a souvent. Emmanuel, nous, on assure qu'il se passe 3 mois entre la fabrication et la livraison dans la salle de bain. Et à partir de là, on conseille à nos clientes et nos clients de les consommer dans les 6 mois. Il ne se passe rien après 6 mois. Simplement, au bout de 6 mois, les ingrédients commencent à perdre de leur efficacité.
On les met au réfrigérateur ?
Alors, vous pouvez. Ce n'est pas obligatoire, mais en fait, le froid ralentit les réactions chimiques. Donc, vous pouvez les mettre au réfrigérateur.
Et autre question, je me demandais comment on fait une fois que c'est fini ? Est-ce que vous avez produit un système qui permet tout simplement de les recharger, puisque vu qu'on est dans quelque chose de très environnemental dans votre produit, et ça j'ai pas trouvé sur vos sites.
On travaille en ce moment à un système de consigne pour que les personnes puissent tout simplement nous retourner les flacons en verre de notre huile. Et puis d'un point de vue environnemental, on a banni le plastique des packaging pour privilégier l'aluminium et le verre qui sont recyclables à l'infini.
Ça s'appelle Crème en tout cas. Merci Juliette Taillé d'être venue nous présenter votre marque de cosmétiques. Et puis pour celles et ceux qui ont envie de tester, c'est en ce moment en pleine campagne Ulule.
Et si vous aussi vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien c'est très simple, vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr. Je vous la redonne parce qu'elle est toujours pas facile. e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1.
Guillaume Darousset, PDG de Petit Bateau, vous restez avec nous, suite et fin de notre émission.
Europe 1. Et oui, parce qu'il est déjà 13h49.
Hein. Dans un instant, demain au travail, allez, tiens, on va passer un coup de fil chez Nexity.
Et pourquoi donc? Eh bien parce qu'ils se bougent pour faire découvrir leur métier et organisent des actions en faveur de l'égalité des chances. C'est tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et c'est déjà la dernière partie de cette émission La France bouge avec notre séquence Demain au travail. Et nous sommes toujours avec notre patron du jour, Guillaume Darousset, le patron de Petit Bateau.
Et avec vous, Julie Monfray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la déléguée générale de la fondation Nexity. Nexity, c'est un promoteur immobilier. Vous avez 11 000 collaborateurs répartis sur toute la France, des agences un peu partout sur le territoire. Et alors vous, demain au travail, pourquoi? Parce que vous accueillez des stagiaires de 3e, donc depuis maintenant 3 ans. Et vous prenez surtout des jeunes sans réseau, avec pour objectif de mettre en place et favoriser l'égalité des chances. Racontez-nous.
Alors, en effet, c'est une décision qu'on a prise il y a 3 ans maintenant d'accueillir 300 stagiaires de 3e issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de milieux modestes pour leur ouvrir de nouvelles perspectives sur des métiers parfois méconnus et pour leur ouvrir les portes d'une entreprise, d'une grande entreprise. Alors, on s'appuie sur une plateforme stagedécouverte.fr développée par MyFutur qui nous permet véritablement d'organiser cette connexion avec ces jeunes sans réseau. Et on fait également appel à nos associations partenaires qui vont diffuser l'ensemble de nos offres auprès de leur public un peu fragilisé et sans réseau.
Elisabeth le disait, ça fait maintenant 3 ans que vous le faites. Quel est le retour d'expérience que vous avez ?
Alors, le retour d'expérience, il se situe à deux niveaux. Déjà, les retours des stagiaires sont extrêmement positifs, puisque ça a créé en quelque sorte des vocations. Et puis, ça les a poussés aussi à s'engager dans d'autres programmes d'égalité des chances qu'on soutient à la Fondation Nexity, sur la découverte des métiers, sur des visites d'opérations immobilières, mais aussi sur du coaching, sur l'image qu'on renvoie en entreprise, les codes de l'entreprise. Mais c'est aussi, côté tuteur, un retour d'expérience extrêmement positif puisqu'on est une entreprise qui est engagée, on va dire, dans le cadre de la certification Great Place to Work. Mmh. 78% des collaborateurs estiment qu'ils sont chez Nexity aussi parce qu'il y a un engagement citoyen et sociétal. Et c'est une façon, en tant que collaborateur, de s'investir au quotidien pour l'égalité des chances.
Alors, est-ce qu'il y a des stagiaires qui vous ont particulièrement marqué ou qui sont en train, là, justement, d'effectuer leur stage ? Je crois que vous aviez, il y en a certains qui sont là cette semaine, hein, Chloé, il me semble, ou Amadou.
Oui, alors exactement, c'est l'année dernière, on a eu quatre stagiaires à la Fondation, Amadou, Bastien, Bilal et Chloé. Et c'est vrai qu'on a vécu une aventure extraordinaire avec en plus des jeunes qui ont trouvé une vocation.
Donc ça leur a donné envie d'avoir un métier dans l'immobilier.
Exactement, sur des métiers en plus un peu méconnus comme conducteur de travaux par exemple. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir leur faire découvrir nos métiers et que ça crée des vocations.
Mmh. Est-ce qu'avec la crise sanitaire, vous allez pouvoir faire perdurer ce dispositif si intéressant pour ces jeunes qui ont la chance d'en bénéficier ?
Alors aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas remis en cause, dans la mesure où, en tant qu'entreprise, on applique strictement les gestes barrières avec le port du masque, du gel hydroalcoolique, la distanciation. Les collèges ont cette même habitude, donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout remis en cause.
Merci Julie Monfray, hein. Vous êtes la déléguée générale de la Fondation Nexity. Guillaume Darousset, chez Petit Bateau, vous aussi, vous avez un programme mis en place pour accueillir des stagiaires de 3e ou d'autres stagiaires issus de qui sont sans réseau ?
Alors, on accueille, nous, beaucoup de stagiaires et d'alternants sur des fonctions, sur des vrais métiers, pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois. Ça leur permet de se lancer dans la vie. Et ça, j'allais dire, c'est tous les ans, y compris même pendant cette période de post-Covid, ou même pendant le confinement, on a accueilli quand même nos alternants et nos stagiaires.
Et en termes d'embauche, vous n'avez pas restreint les embauches à cause du confinement ? Vous avez maintenu le programme comme il était, ou vous avez dû, vous, comme pas mal d'entreprises, faire attention ?
Clairement, on a gelé les embauches pendant cette période. Maintenant, à nous de retrouver de la croissance, à nous de retrouver de l'élan, notamment grâce au digital, on en parlait. Et puis après, on verra ce qui se passera.
Et on va repartir de l'avant du côté de Petit Bateau. Un grand merci, Guillaume Darousset. Je rappelle que vous êtes à la tête de Petit Bateau. Merci de nous avoir accompagnés pendant toute cette heure sur Europe 1, dans La France Bouge.
Et c'est la fin de votre émission. On se retrouve donc demain, 13h, pour une nouvelle France Bouge. On parlera de quoi, Emmanuel, demain ?
Alors, si je vous dis domotique, vous allez peut-être me dire domo quoi ? Ça sert à rien. Eh bien, on sera notamment avec le leader mondial des interrupteurs. Ça s'appelle Legrand. C'est une entreprise française, une énorme réussite française. Mais surtout, on va voir comment on va imaginer nos intérieurs de demain, comment ils vont être de plus en plus connectés officiellement pour nous faciliter la vie.
Merci. On se retrouve donc demain 13h. Dans un instant, le flash de 14h. Ce sera suivi de Christophe Ondelat. À demain.